da 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 da
Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, entretien avec Leïla Chaïd, qui a été déléguée générale de l'autorité palestinienne en France de 1994 à novembre 2005, puis ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne de 2005 à 2015.
Bonjour Leïla.
Je dois commencer par faire une correction, mais correction qui va vraiment plaire aux auditeurs de votre radio, parce que ça montre combien la question palestinienne est compliquée. Premièrement, il n'y a jamais eu de délégué de l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, elle, représente uniquement les habitants des territoires occupés et dont on a étudié le statut à Oslo. Et donc, c'est une partie des Palestiniens, seulement ceux qui vivent dans les territoires. Et donc, la déléguée, c'est un titre que François Mitterrand, en 1988, avec beaucoup de courage d'ailleurs, a décidé de donner à la Palestine après que le président Arafat a fait un vote au Conseil national palestinien Alger, où nous avons reconnu l'État d'Israël dans ses frontières de 67. Et Mitterrand, comme un président responsable et intelligent, a dit à Laurent Dumas, écoutez, il faut renvoyer l'ascenseur à Arafat, qui maintenant, en 88, reconnaît, le 15 mai, il reconnaît l'État d'Israël dans les frontières de 67. Les Israéliens n'ont rien reconnu que notre droit à l'autodétermination à Oslo. Et alors, Mitterrand dit à Laurent Dumas, trouve-moi un titre, parce que jusqu'alors, depuis 1974, sous Giscard d'Estaing, on s'appelait bureau de l'OLP. Et Azzedine Kallak, Mahmoud El-Hamchari, Ibrahim Sous, ça c'est les représentants de l'OLP. Avec beaucoup d'intelligence, Roland Dumas étudie la question et revient le lendemain et dit à Mitterrand, écoutez président, Charles de Gaulle, pour donner au Québec un statut de pays, pas seulement d'un consul général, a trouvé le terme délégué général du Québec pour les Québécois, qui ne demandait pas du tout une indépendance totale, mais une reconnaissance. Si on donnait aux Palestiniens la même chose, en les appelant pas représentants de l'OLP, qui est une organisation, mais délégués généraux d'un pays qui est la Palestine, et dont notre titre est devenu, dans une lettre officielle donnée aux représentants de la Palestine, qu'à partir donc, de ce jour-là, on était délégués généraux de Palestine. J'y tiens beaucoup, parce que c'est un des acquis, des petits acquis que nous avons eus dans cette longue guerre de libération nationale. Et je suis très fière que c'est la France qui le fait avant tous les autres pays. C'est parce qu'en France, j'étais déléguée générale de Palestine que j'ai pu imposer la même chose à Bruxelles, parce que j'ai été nommée à Bruxelles pendant 10 ans comme déléguée générale pour l'Union européenne, la Belgique et le Luxembourg. Voilà une longue réponse pour dire à tous les amis du Larzac, ils sont très nombreux, puisque je les connais depuis 1975, et que je sais qu'ils tiennent beaucoup à expliquer à leurs amis, puisque ça s'appelle l'histoire de Palestine, que c'est une longue lutte, toutes les grandes luttes, qu'elles soient algériennes ou sud-africaines ou vietnamiennes, c'est des longues luttes. Et donc, il faut pas renoncer, il faut pas désespérer, il faut voir les acquis étape par étape des périodes historiques, mais sûrement celles qu'on vit aujourd'hui, dans la bande de Gaza avec ce qui vient de se passer depuis le 7 octobre est une des plus tragiques.
Merci beaucoup, Leïla, pour toutes ces précisions et cette contextualisation, en fait, de ta présentation. Là, tu es accueillie, Issa Millo, comme une amie du Larzac, par le collectif Palestine 12 de Larzac Solidarité.
Merci de m'accueillir comme une amie.
Et nous sommes là pour te renouveler encore aujourd'hui notre solidarité avec les Palestiniens.
Merci beaucoup.
Nous avions prévu de faire cette émission pour le 29 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec la Palestine. Mais tu as accepté de trouver le temps d'avancer cette émission compte tenu de la situation. On t'en remercie énormément.
On a besoin d'explications et d'échanges et de dialogues aujourd'hui, beaucoup plus qu'une journée formelle qui est magnifique, le 29 novembre. On en fera une autre.
D'accord. Leïla, tu n'as pas été ménagée par les médias. Alors, sur Radio Larzac, tu as toute liberté pour parler.
Merci.
D'abord, comment tu vas et comment vis-tu ces événements ?
Avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de nuits blanches où je regarde les images de la seule télévision qui est présente à l'intérieur de la bande de Gaza, puisque l'armée israélienne interdit à quiconque de rentrer dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et donc, les seules images en direct qui sont live, c'est les images de Al Jazeera. Al Jazeera donc a ses équipes là-bas avec des journalistes vraiment d'un courage extraordinaire parce qu'ils sont vraiment sur le site bombardé, des hommes et des femmes. Et ils rapportent du nord au sud et d'est à ouest les événements. Et donc moi je ne peux pas résister à me réveiller à 3h du matin pour voir où ils en sont, puis à 5h du matin, puis bien sûr dans la journée c'est évident, mais même dans la nuit. Donc je n'ai pas de nuit très longue. Je pleure beaucoup parce que les images des immeubles qui tombent littéralement sur les centaines d'enfants tués, il y en a eu déjà rien que la nuit dernière 120. Et il y a aujourd'hui 1700 enfants morts. Ça, c'est les dernières, mais il y a encore des corps qui sont sous les décombres. Et puis, une fois que la bombe tombe, deux minutes après, on le voit dans l'image live, les gens, les voisins accourent, surtout par exemple Jabalia, qui est un des plus grands camps à Gaza, qui est au nord de Gaza, les gens, les voisins, les courent, et bien sûr les secouristes, mais les secouristes, ils ont des gilets oranges, donc on les reconnaît, pour, avec leurs mains nues, sortir. Quelquefois, on voit des images extraordinaires, où sous une immense planche de ciment, on sort par miracle des familles entières. Et où dans d'autres, ils n'arrivent pas, c'est difficile à dire, mais les survivants crient. On est vivants, sortez-nous. Et quelquefois, ils ne peuvent pas les sortir parce que c'est uniquement les mains nues. Ils n'ont pas de camion, ils n'ont pas de trucs pour soulever les pans de murs de ciment. Et ils les entendent crier jusqu'à la mort et puis ils ne crient plus. Et donc, vous comptez les morts, mais il faut en faire le double. C'est ceux des cadavres qui sont encore sur les décombres. On n'a jamais vu, depuis 75 ans que cette cause existe, on n'a jamais vu une destruction comme celle qu'on a vue depuis 3 semaines. On n'a jamais vu.
On reste un petit peu sans voix.
Oui,
devant la situation. Comment tout ça est arrivé?
Je pense réellement qu'il faut, lorsqu'on parle de Palestine, surtout avec des amis comme Bo Larzac, regarder toujours dans le temps long. Ce n'est pas un conflit, c'est une cause, ça veut dire, c'est la dernière cause de décolonisation au monde. Et c'est l'occupation militaire la plus longue, qui est depuis 1956. Mais la cause commence en 1948, hein, elle a 75 ans. Et l'occupation militaire qui commence en 1967, elle a 50 ans, ok? 56 ans. Et donc, on ne peut pas lire les événements comme le fait la presse nationale, comme si ça commençait hier. Si on regarde ce qui a été dit depuis le 6 octobre, vous pensez que les choses, les problèmes entre Israéliens et Palestiniens ont commencé le 6 octobre et qu'il y a des chimpanzés qui s'appellent le Hamas qui ont décidé de sauter par-dessus le mur pour aller tuer des enfants et des femmes. C'est débile de lire comme ça l'histoire, qu'elle soit la palestinienne ou l'africaine ou n'importe quel autre conflit politique grave dans le monde. Il faut regarder un peu le contexte. Alors, le contexte, bien sûr, c'est comme j'ai dit, un développement incroyable de deux situations. Il y a avant tout la situation palestinienne, qui est celle d'une bande de Gaza où 80% de la population sont des réfugiés dans leur propre pays. Ça veut dire que c'est tous les villageois qui habitaient dans tous les villages de Galilée, qui aujourd'hui entourent la bande de Gaza, dont les villages ont été détruits. 560 villages ont été dynamités par la Haganah, la Haganah étant les prédécesseurs de l'armée, puis par l'armée israélienne. Et ces gens-là ont fui dans l'espace le plus proche. Gaza était sous administration égyptienne, puisqu'il n'y avait pas d'État ni d'OLP. Et donc, ils sont tous partis vers la bande de Gaza, espérant que là-bas, ils seraient en sécurité. Et ils ne sont jamais revenus chez eux, puisque leurs villages ont été détruits. C'était ça. C'est ça l'idée de la Nakba. C'est de détruire l'espace où vivent les gens, qu'ils soient urbains ou ruraux, et de prendre leur terre, parce qu'ils veulent prendre la terre sans population, les sionistes, depuis toujours. La même chose, regardons maintenant, c'est le côté de Gaza. On ne va pas faire toute la Palestine, sinon pour les auditeurs, ce sera trop compliqué. Prenons les Israéliens. Même chose, Israéliens venant de cultures très différentes. Il y a bien sûr ceux de l'Europe qui sont les Ashkénazes, qui ont vécu la tragédie du génocide, la Shoah, des camps de concentration. Ceux qui sont sortis vivants et leurs descendants, lorsqu'ils pouvaient, bien sûr qu'ils préféraient émigrer vers les États-Unis, vers le Canada, vers la France, ou qui étaient des cultures occidentales qui leur ressemblaient beaucoup plus que de suivre les sionistes qui les appelaient à aller en Palestine. C'était encore la Palestine. Et donc, il y a, disons, une partie qui est partie vers les États-Unis, le Canada et la France, mais il y avait un quota. Par exemple, imaginez-vous qu'à la sortie des camps, en 1945, seulement 50 000 juifs rescapés pouvaient aller aux États-Unis. Les États-Unis qui prétendent aujourd'hui être les grands défenseurs d'Israël. Les autres, où vous voulez qu'ils aillent? Ils ont été vers la terre promise en Palestine, espérant qu'elle est vraiment promise, que là-bas, ils vont trouver la sécurité. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a eu une évolution, bien sûr, donc arrive, il y a des heurts très violents entre la population palestinienne qui habite en Palestine depuis toujours et ces nouveaux immigrants qui arrivent en bateau, rappelez-vous le film Exodus. Et les Palestiniens, au début, disent, mais on va vivre ensemble, parce que les Palestiniens, leur projet, c'était un État démocratique et laïque, avec juifs, chrétiens et musulmans. Juifs et chrétiens et musulmans vivaient en très bonne entente avant l'arrivée des sionistes. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, était le maire de la ville de Jérusalem, okay, sous l'Empire ottoman. Et dans son conseil municipal, il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans qui travaillaient ensemble, qui géraient la ville de Jérusalem ensemble. C'est vous dire que c'est une réalité qu'on a connue, la coexistence laïque. Lisez le livre de ma mère, qui s'appelle « Souvenirs de Jérusalem », publié chez Fayard. Elle raconte, comme une petite fille, comment ils vivaient à Jérusalem. Mais entre 1948 et aujourd'hui, la société israélienne a évolué. Il y a la société et il y a le régime politique. Ben-Gourion, le fondateur de l'État d'Israël, était un grand laïc. Bien sûr, brillant stratège, et il a eu l'intelligence d'accepter le plan de partage et il a dit à ses camarades, on accepte le plan de partage que les Nations Unies ont voté justement le 29 novembre 1947, d'où la date du 29 novembre. Et une fois qu'on aura voté, en tout cas eux ne votaient pas, mais accepté le plan de partage, après on prendra le reste par la force militaire. Vous voyez comme il est malin. Alors, nous, par contre, comme nous, on proposait que de vivre ensemble, on ne voyait pas pourquoi on allait partager. On disait, on veut un État démocratique et laïque pour tout le monde dans cet espace qui va de la mer Méditerranée au Jourdain. Et alors, on nous a accusés, bien sûr, de refuser le plan de partage. Et les États arabes, avec leur armée, sont entrés en guerre en 1948. Depuis 1948, et Ben-Gourion, qui était laïque, qui était intelligent, qui comprenait qu'on ne pouvait pas faire disparaître cette population qui a toujours habité sur cette terre, il a encouragé petit à petit le premier grand nettoyage ethnique de la Palestine. Il faut lire Ilan Pappé. Ilan Pappé est un historien israélien qui raconte comment on a essayé de vider la Palestine de toute sa population. 700 000 ont été mis à la porte, qui sont les réfugiés aujourd'hui à Gaza, au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Cisjordanie. même des camps de réfugiés en Cisjordanie. Et donc, si vous voulez, cette population, ce régime-là, était un régime surtout d'un parti qui est le Parti travailliste israélien. Ça veut dire Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Ben Gurion, tout ça, c'est des travaillistes. En 77, ils perdent les élections et c'est le Likoud qui prend la place. On a entre-temps occupé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Et donc, c'est une droite religieuse, mais encore modérément, qui prend la majorité des sièges et qui remplace les travaillistes. Et depuis 1977, les travaillistes ne sont pas vraiment revenus au pouvoir que pour la petite période des accords d'Oslo avec Rabin et Peres. Et la nouvelle classe aujourd'hui dans le régime israélien, et là où Netanyahou est un criminel de guerre qu'il faudra juger dans un tribunal de Nuremberg, et c'est les Israéliens, c'est mes amis israéliens qui disent ça, c'est pas seulement moi, c'est Monsieur Netanyahou. Monsieur Netanyahou, pour commencer, est un homme dont la seule raison de vivre, c'est d'être au pouvoir. Son père faisait partie de l'extrême droite israélienne et il est parti, il a emmené ses enfants en 1948 parce qu'il était contre Ben-Gurion, qui était supposé être le type de gauche, ça veut dire le sociodémocrate. Il est parti aux États-Unis et M. Netanyahou a grandi aux États-Unis avec un père d'extrême droite raciste et il n'est revenu en Israël qu'après 1991, lorsqu'on a voulu le prendre comme porte-parole aux négociations de paix à Madrid. Et il a gravi les échelons parce qu'il est soutenu par les Américains, parce qu'il est peut-être plus américain qu'israélien. Et comme il n'a aucune valeur, aucune moralité, aucune éthique, il a fait plusieurs... Ça fait 12 ans qu'il est Premier ministre. C'est la plus longue période d'aucun Premier ministre. À la fin, pour qu'on ne fasse pas un cours historique trop long, il n'a plus de majorité au sein de son propre parti du Likoud, parce que comme vous avez vu, par exemple, il veut réformer la juridiction israélienne pour qu'il ait tout le pouvoir, lui, chef du pouvoir exécutif. Il y a eu pendant 8 mois des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue pour défendre leur droit à la démocratie et à une Cour suprême. Il veut annuler la Cour suprême. Et donc, pour pouvoir rester au pouvoir, il convoque deux leaders de deux mouvements suprémacistes juifs, racistes, d'extrême droite, religieuses, encore pire que les salafistes musulmans. Et il en fait deux partis qui participent aux élections en novembre dernier, il y a un an, et qui deviennent membres du gouvernement, qui est constitué en janvier 23, et il leur donne deux postes, écoutez-moi bien, auditeur, deux postes. Monsieur Ben-Gvir, le poste de ministre en charge de la sécurité nationale, poste qui n'a jamais existé avant, puisque c'est l'armée, normalement, qui gère la sécurité nationale. Et M. Smotrich, le poste de ministre des Finances, en charge de l'administration civile, civile entre guillemets, en fait, elle est militaire, de la Cisjordanie. Ça veut dire deux postes, parce qu'ils sont sécuritaires, dans les territoires occupés et en Israël, sont ceux qui aujourd'hui légitiment les colons qui sont devenus les milices d'Israël. L'armée israélienne est une armée du peuple, ok? Elle est surtout faite de réservistes, qui sont des gens qui ont fait leur service militaire. Certains sont des militants de la paix, d'ailleurs. Par contre, les milices exécutent ce qu'on leur dit. Et donc, ces milices, qui sont les colons, qui sont partout en Cisjordanie, qui ne sont plus à l'intérieur de Gaza, puisque Sharon les a retirés parce que ça lui coûtait trop de soldats, tués. Et donc, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire les attaques contre Naplouse, contre Jenin, contre tous les villages palestiniens pour encore une fois faire ce qu'on a fait en 48. Ça veut dire effrayer, terroriser la population palestinienne pour l'obliger à partir et mettre la main sur le territoire. C'est ce qu'on appelle, nous, l'annexion de la Cisjordanie, de ce qui reste des territoires autonomes palestiniens, pour annexer complètement tous les territoires. On a déjà annexé officiellement Jérusalem-Est, et malheureusement les Américains l'ont reconnu comme seulement la capitale du peuple juif, et ils ont complètement annexé, et ils essayent la même chose dans la vieille ville, faire partir les Palestiniens. Maintenant, on va mettre la main sur la bande de Gaza, Et eux, ils essayent de faire partir les gens en Cisjordanie. Comme ça, Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? C'est Israël de la mer à la rivière, de la mer Méditerranée au Jourdain. Et ce qui permet tout ça, c'est que depuis 1948, vous avez des résolutions votées à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité, qui ne sont jamais mises en œuvre. Aujourd'hui même, le président Macron est à Jérusalem en disant qu'il est venu exprimer son soutien à Israël. Et peut-être, peut-être, il va aller chez Mahmoud Abbas, on n'en est pas sûr. Mais surtout, il dit que la France est pour deux États côte à côte. Mais cette résolution des deux États, elle a 50 ans d'âge depuis la guerre des six jours. Qu'est-ce que la France ou l'Union européenne ou les Américains ont fait pour mettre en œuvre un dixième de ce droit à l'autodétermination? Rien.
Thank you. Là, tu as évoqué les 8 mois de manifestations en Israël. Je voudrais savoir, est-ce que la question palestinienne a été évoquée dans ces manifestations ?
Très bonne question, très bonne question, très très bonne question. Alors, donc ces manifestations qui ont commencé par être quelques milliers, puis quelques dizaines de milliers, puis quelques centaines de milliers, qui durent depuis 8 mois. Elles ne se sont arrêtées qu'avec les événements de Gaza. Au début, on ne voyait pas du tout de drapeaux palestiniens, des milliers de drapeaux israéliens. Mais on n'avait jamais vu une taille aussi importante de manifestations, et surtout qui revenait tous les vendredis. Tous les vendredis, il y avait, parce que le week-end commence le vendredi chez les Israéliens. Et donc tous les vendredis, ils étaient dans la rue. C'était toute la jeunesse israélienne, mais pas seulement. Et leur revendication, c'est qu'ils allaient lutter contre les tentatives de M. Netanyahou d'annuler les mandats et le rôle des juges de la Cour suprême, parce qu'il n'y a pas de constitution en Israël. Ben-Gurion a eu peur de faire une constitution parce que les religieux voulaient qu'elle soit religieuse. Et lui ne voulait pas parce qu'il était laïc. Donc, il a dit, je vais éviter, un jour, quelqu'un d'autre après moi fera une constitution israélienne. Elle n'a jamais été faite. Donc, si vous voulez, la juridiction autonome au sein d'une Cour suprême, c'est la constitution israélienne. Éliminer ça pour en faire uniquement un instrument de la majorité du moment, c'est la rendre complètement inefficace parce qu'elle ne devient qu'un soutien au gouvernement de la période. C'est ce que veut faire M. Netanyahou, parce que M. Netanyahou est poursuivi pour détournement de fonds et pour corruption. Et donc, il pense que tant qu'il est Premier ministre, il a l'immunité diplomatique, ce qui est parlementaire et politique. Et donc, il veut rester Premier ministre. Et donc, il faut qu'il ait une majorité à n'importe quel prix, même si le Likoud, son parti, ne le soutient plus. Et donc, il y a ces manifestations. Nous, on est très impressionnés parce qu'on n'a jamais vu des centaines de milliers de gens toutes les semaines en Israël dans la rue contre le gouvernement. Lorsqu'on demandait à nos amis comment se fait-il qu'on ne voit pas de drapeau palestinien, ils nous disaient très franchement parce que nous en sommes arrivés à unifier tous les mouvements de contestation sous la bannière lutte pour la démocratie. On a peur, si on sort la question de l'occupation des territoires et le droit des Palestiniens à l'autodétermination en État, on va scinder le mouvement, on va le diviser, et on n'aura plus plusieurs centaines de milliers, on aura quelques dizaines de milliers. Moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait convaincant comme argument. Mais l'histoire évolue, c'est pour ça qu'il faut la lire dans le temps long. Vers le milieu, disons vers le mois de août, septembre, il y a une pétition signée par 2700 universitaires israéliens et juifs américains qui dit « c'est un non-sens de séparer les combats pour la démocratie des combats pour la fin de l'occupation. Nous ne pouvons pas continuer à uniquement descendre dans la rue contre les projets de Netanyahou pour la réforme judiciaire et ne pas dire qu'il faut mettre fin à l'occupation militaire et reconnaître un État palestinien. 2700. Comme par hasard, cette pétition n'a jamais été publiée en France, ce qui est quand même très choquant parce qu'elle représente une partie très importante de l'opinion israélienne et de la diaspora juive. Il n'y a même presque pas de nom de juifs français dedans. Après, ils l'ont ouvert à tous ceux qui voulaient la signer. Et donc, vous voyez, il y a une évolution. Mais on ne peut pas forcer le changement des sociétés. La société israélienne est passée d'une société laïque, bien sûr coloniale, qui a fait la première Nakba, qui n'a pas hésité à massacrer des gens en 48, mais elle est restée plus ou moins laïque jusqu'en 67. Après 67, malheureusement, le Likoud a pris la relève, et maintenant vous avez des racistes suprémacistes juifs qui se revendiquent en tant que tels. Monsieur Smotrich a dit il faut brûler le village de Hawara, qui est le verrou de la ville de Naplouse, qui est une grande ville de résistants. La presse israélienne a dit ce qu'ils ont fait à Hawara, les colons, c'est un pogrom, mais contre les Palestiniens, pas contre les Juifs. C'est des Juifs qui ont fait un pogrom, et c'était les colons qui sont dans les villages, sur les collines, qui surplombe le Hawara. Les Palestiniens ont évolué aussi, parce qu'avant, nous étions plutôt des nationalistes arabes. On pensait que c'est Abd al-Nasser qui va venir nous aider à nous libérer. On a fait un mouvement de libération nationale qui s'est symbolisé par la création de l'OLP. C'est la politique de Yasser Arafat qui a défendu cette thèse. Puis lorsqu'on a eu le sentiment qu'il fallait quand même trouver un compromis, on a reconnu l'État d'Israël, on a accepté l'idée de deux États, où nous, on ne revendiquait que 23% des 100% qui étaient la Palestine mandataire. On a fait les accords d'Oslo qui n'ont jamais été mis en œuvre. Et cette communauté internationale qui est hypocrite et qui est menteuse et qui est complice de ce qui s'est passé n'a jamais rien fait pour mettre en œuvre les clauses des accords d'Oslo qui disent qu'il faut qu'on soit accompagné, parce que c'est évident que nous, Palestiniens, qui n'avons ni État, ni armée, ni économie, ni pétrole, on n'a pas la force de la puissance occupante depuis 75 ans. Et donc, je considère que la communauté internationale, France inclue, Union européenne inclue, État arabe inclus, est très responsable de l'échec de la paix. Et malheureusement, les horreurs qu'on a vues, incluent les assassinats de femmes et d'enfants israéliens le 7 octobre, est la résultante d'une occupation qui a duré trop longtemps, d'une humiliation, d'une dépossession des droits du peuple palestinien et d'une impunité totale de la puissance occupante. Impunité totale. Il n'y a pas eu une sanction prise à l'égard du gouvernement israélien ou de l'armée israélienne. En Russie, en Ukraine, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, tous les jours, il y a une sanction économique, diplomatique, sécuritaire contre la Russie. Comment se fait-il qu'en 56 ans d'occupation, il n'y a pas une sanction contre le gouvernement israélien et l'armée? Moi, je ne demande pas de sanction contre le peuple. On a beaucoup d'alliés et d'amis et de frères de combat dans le peuple. Mais comment se fait-il? Ça, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Et ce conflit, on ne peut pas le limiter uniquement à une histoire de frontières et des bantoustans qu'on va créer avec un mirador. Non, la question palestinienne est une question, premièrement, d'histoire. Ça veut dire la décolonisation pour nous, Palestiniens, et l'horreur de la Shoah pour les Israéliens. Deuxièmement, c'est une question de justice et de capacité ou de non-capacité de des instances internationales qui ont la paix comme fonction, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, à mettre en place le droit international et à le faire respecter par tout le monde. Et avant tout, les agresseurs, pas les agressés. Et la capacité de construire, comme on a dit après la fin du système bipolaire entre Union soviétique et Américain, d'un équilibre du monde entre Est et Ouest. Soi-disant, il n'y a plus de Est et Ouest, mais on voit que c'est le chaos total, c'est qui est celui qui est le plus fort qui s'impose, que ce soit en Ukraine ou en Palestine ou dans n'importe tous les territoires ou en Afrique, il y a des guerres entre voisins. Et donc je pense que ce qui s'est passé doit nous rappeler à nous tous et à vos auditeurs dans le DASAC que la paix ne peut pas être partielle, elle ne peut pas exister en France. Cette égalité, cette justice, et n'ont pas existé au cœur de la Méditerranée, ça veut dire en Israël et en Palestine et au Liban, ou bien en Afrique, ou bien dans... Il faut qu'il y ait, on revienne à un système international qui ne peut être basé que sur le droit de l'homme, le droit international, le droit humanitaire, sinon ça deviendra des guerres de civilisation et des guerres de religion. Bien sûr, chacun dira, moi pourquoi je ne peux pas accepter d'être humilié toute ma vie parce que moi je suis né africain, ou né noir, ou né musulman, ou né juif, et l'autre, parce qu'il est plus fort que moi, va continuer à m'humilier. Donc, c'est une tâche universelle. C'est pour ça que c'est une cause palestinienne et pas un conflit israélo-palestinien. Les conflits, c'est entre deux États, entre deux armées. Nous, on n'est ni une armée, ni un État, malheureusement, mais on est une cause.
Leïla, de nombreuses organisations ont dénoncé la situation d'apartheid qui est installée en Palestine. Penses-tu qu'en fait, ça peut aboutir au niveau international?
Moi, j'ai été déléguée générale de Palestine à Bruxelles pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Nous avons fait, avec Stéphane Hessel, une commission qui s'appelle le Tribunal Russell pour la Palestine. Et donc, le tribunal Drassel pour la Palestine était présidé par Stéphane Hessel et il incluait Angela Davis, des juges, c'était extraordinaire. Et on a fait 5 sessions pour étudier avec les gens du tribunal Drassel, parce que c'est une fondation, il a fallu qu'ils acceptent de faire, comme ils ont fait pour le Vietnam, une commission, un tribunal pour la Palestine. Et les juges, qui étaient des gens vraiment d'éminents avocats et juristes, dont des Israéliens, ont fini, après les 5 sessions, par dire, effectivement, on peut appliquer le crime d'apartheid, qui est très spécifique dans le droit international, à la manière dont Israël traite les Palestiniens. Et donc, il y a des livres publiés sur ce tribunal Drassel. C'était déjà en 2008. Okay. Ce qui s'est passé depuis, c'est que confirmant le fait qu'Israël emploie le système d'apartheid contre les Palestiniens, la Knesset a voté une loi qui s'appelle la loi de la nation, qui dit uniquement le peuple juif a le droit à l'autodétermination sur le sol israélien ou ex-palestinien. Lorsqu'on dit que dans un territoire comme le territoire israélien, où 20% de la population est chrétienne et musulmane et sont des Palestiniens, dire que la citoyenneté ne s'applique qu'aux Juifs, c'est créer les bases de l'apartheid. C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud, seulement là-bas c'était noir et blanc. Et en Israël, c'est juif et non-juif. On revient à l'idée que c'est uniquement un pays, un État pour les Juifs. Ça ne peut produire qu'un système d'apartheid. Avec l'annexion maintenant de la Cisjordanie, on étend ça à la Cisjordanie, puisque c'est un territoire annexé, donc sous administration israélienne. Il y a de fait une loi pour les Juifs, inclut les colons qui sont contre leur présence et une violation du droit international. Eux, ils sont protégés par les lois israéliennes et les Palestiniens ne sont protégés par aucune loi, que la loi militaire israélienne qui les occupe. C'est aussi de l'apartheid.
Dans ce contexte-là, où est-ce que tu vois les perspectives pour la Palestine et pour la paix et pour la justice?
Premièrement, c'est tragique à dire, mais la vitalité de cette société palestinienne qui se bat depuis un siècle, sa capacité de rester humaine, ça veut dire, à part bien sûr les terribles incidents qu'assume le Hamas, je vous dirai pourquoi je pense qu'ils ont eu lieu. Je n'ai jamais voté Hamas, je ne suis pas islamiste, ni en Palestine, ni au Liban, ni en France, de nulle part. Je n'ai pas milité pendant la moitié de ma vie pour avoir un gouvernement ni islamiste, ni religieux chrétien, ni religieux juif. Et donc, ce n'est pas le parti pour lequel je vote, le Hamas. Mais ce qui s'est passé comme horreur est le résultat, malheureusement, de la frustration, de l'humiliation, de la guerre et de fait de voir que toutes les promesses de paix des dirigeants palestiniens, de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas, qu'Oslo va être appliqué, ont disparu. Et donc, les gens que vous avez vus qui ont sauté par-dessus les barbelés à Gaza, ce n'est pas nécessairement des militants encartés au Hamas. C'est les gens de Gaza qui sont furieux, qui sont en rage, qui sont... Et bon, et ils ont fait les crimes de guerre, parce que tuer des civils, c'est des crimes de guerre, que ce soit en Palestine ou en Israël ou en Afrique ou n'importe où ailleurs, ou aux États-Unis, il y a encore des crimes de guerre. Et donc, je dirais que la chose qui me rassure, et je dirais comme beaucoup qu'il faut avoir l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la réalité politique, c'est la vitalité de cette société qui est prête demain, la même qui a fait ce qu'on a vu à Gaza, la même qui se bat aujourd'hui en Cisjordanie, si demain on lui donne une perspective de coexistence, une perspective de liberté, une perspective de dignité, qu'est-ce que c'est intifada? On en a eu 2. Et pour moi, ce qui se passe maintenant, c'est la 3e. Qu'est-ce que ça veut dire intifada? En arabe, intifada, c'est celui qui s'est soulevé. J'avais inscrit il y a 30 ans, 40 ans, une thèse de doctorat sur l'intifada dans les camps de réfugiés du Liban. Ça veut dire ça, ça veut dire reprendre confiance en soi, se relever, et ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est contre soi, se reprendre confiance pour s'autodéterminer. C'est ce qu'on a fait dans les camps de réfugiés au Liban en 69, c'est ce qu'on a fait en 87 dans les territoires occupés, et c'est ce qu'ils essayent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Seulement, si on laisse, j'ai aujourd'hui lu un truc que j'ai de la peine à croire, l'association des juristes dit qu'on prépare un crime génocidaire à Gaza. Génocidaire. Terme qu'on n'a jamais employé, nous, parce que il fait référence à la Shoah et qu'on n'aime pas utiliser des termes qui font référence quand même à un crime contre l'humanité de la taille de la Shoah qui n'a pas de synonyme dans l'histoire contemporaine. Mais là, la violence, les bombardements, la destruction, l'enfermement sans eau, sans électricité, sans essence, sans nourriture de la bande de Gaza, c'est compatible avec les articles de l'accusation de génocide. Le monde va continuer à regarder comme ça. Si aujourd'hui M. Macron là-bas prend la peine d'aller voir les Palestiniens dans la personne de Mahmoud Abbas, qu'on peut difficilement appeler un terroriste, si les autres représentants de la communauté internationale, ça veut dire les Européens, les Américains, les États arabes qui soi-disant ont fait la paix avec Israël, comme les Émirats arabes unis et le Bahreïn et le Maroc, se retrouvent ensemble pour dire, première chose qu'on veut, c'est un cessez-le-feu. C'est ridicule d'aller dire, on veut une trêve, comme dit M. Macron. Qu'est-ce que ça veut dire une trêve? Et on va recommencer à bombarder dans une semaine et on aura pendant 6 jours arrêté pour faire entrer 10 camions avec des vivres. Il faut un cessez-le-feu total. Il faut négocier la libération des otages des deux côtés. C'est vrai qu'il y a, je ne sais plus combien, 200 otages internationaux israéliens aux mains du Hamas, mais il y a 5000 otages dans les prisons israéliennes qui sont nos otages, nos prisonniers politiques, souvent des gens qui n'ont rien fait parce qu'ils sont détenus selon ce qu'on appelle la détention administrative, une loi britannique qui date du temps de la colonisation britannique. Il faut négocier aussi la libération de cela. D'ailleurs, Israël a négocié avec le Hamas plusieurs fois l'échange de prisonniers. Gilad Shalit, le jeune soldat qui avait son portrait sur la façade de la ville de Paris, il a été libéré contre 1200 prisonniers palestiniens. Troisièmement, il faut envoyer des casques bleus, en particulier à Gaza, parce que Gaza est presque détruite. Donc, ce n'est pas facile d'arrêter la réaction de vengeance, autant chez les Palestiniens que chez les Israéliens. Nous voyons le désir de vengeance du côté de l'armée israélienne. Elle le réclame d'ailleurs à toi tous les jours. Mais il y aura aussi des familles qui ont perdu 3/4 de leur famille parce qu'ils sont en groupe, ils se cachent en groupe de famille. Et lorsqu'ils ont l'immeuble qui tombe sur leur tête, c'est une famille entière qui est disséminée. Il y aura aussi des désirs de vengeance. Donc il faut des casques bleus pour essayer de maintenir la sécurité, que ce soit entre Palestiniens et Israéliens ou que ce soit aussi entre Palestiniens à l'intérieur de Gaza. Parce que les traumatismes conduisent à la violence, bien sûr, parce qu'on a plus de maison, plus de toit, plus rien, et que le 3/4 de ta famille a été éliminé, éradiqué, comme ils disent. Et donc, je pense qu'il faut envoyer des casques bleus. Il faut que la communauté internationale cesse de traiter la cause palestinienne comme si c'était une guerre régulière, comme avec l'Égypte ou la Jordanie ou la Syrie. Il faut qu'ils comprennent qu'elle restera une épine dans le corps de la société méditerranéenne en particulier, mais aussi mondiale, tant qu'elle n'aura pas trouvé de solution, parce que ce peuple a montré qu'il ne baissera pas les bras, qu'il est convaincu que sa cause est juste. Comme disait Jean Genet, elle n'est pas seulement une question de justice, elle est une question de justesse. Ça veut dire qu'elle représente tout ce qui a été écrasé, humilié, dépossédé de ses droits et empêché de vivre et qui se révolte. Moi, souvent, je donne comme exemple le théorème d'Archimède. Tout corps plongé de haut en bas dans l'eau reçoit une poussée verticale qui le fait remonter. C'est ce qui fait remonter toute une... Comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens qui ont 18 ans, qu'on a vu dans les images de Gaza, c'est la 4e génération de réfugiés palestiniens, continuent à se battre avec la même conviction que nos aïeux. Leur sentiment que c'est un droit à la dignité humaine, à la justice humaine, que tout le monde... Pourquoi on a tellement d'amis dans le monde? Et je voudrais finir avec ça. Pourquoi on n'a pas d'alliés, nulle part, ni même dans les États arabes. parce qu'ils sont tous autocrates. On n'a pas d'alliés vraiment dans l'Union européenne parce qu'elle est incapable d'être même unie. On n'a pas d'alliés aux États-Unis. Et en Afrique, ils ont autant de problèmes que nous. Par contre, on a beaucoup d'alliés dans les sociétés civiles. On a des amis comme vous partout. En France, non, je ne sais pas moi, on a des sections de l'association France-Palestine dans 40 villes. On a l'association de jumelage avec les camps de réfugiés dans 30 villes. On a aux États-Unis des amis qui vont jusqu'au Congrès pour manifester. Parce qu'ils sont tous des militants pour les droits de l'homme, des militants pour la justice et la liberté, des militants laïcs qui refusent qu'on les traite comme si c'était tous des agents du Hamas ou d'autres mouvements islamistes. Il n'y a aucune comparaison entre ce que font les terroristes du Bataclan et des Tours et de Bruxelles avec un mouvement qui se réclame islamiste et que je ne soutiens pas, mais qui est un mouvement qui est sorti en 1947, ça veut dire il y a à peine 30 ans, pour demander la liberté de son territoire. Et donc je pense réellement que, plus que jamais, la solidarité des amis de la Palestine est nécessaire. Parce que regardez ce qui s'est passé en France. On va prendre un exemple. Le gouvernement français, l'État français, a commencé par interdire les manifestations des amis de la Palestine le 7 octobre pour uniquement permettre au CRIF de faire ces manifestations. Et ça, c'est les amis d'Israël. J'ai trouvé que c'était scandaleux de différencier les droits des citoyens concernés par le droit des Palestiniens différemment de ceux qui sont concernés par les droits des Israéliens. Je comprends très bien qu'il y ait des amis d'Israël. Mais pourquoi certains ont le droit de manifester au Trocadéro et les autres, c'est interdit à la place de la République? Je me suis dit, on va rentrer dans une guerre civile parce que les citoyens sensibles, et ils ne sont pas tous musulmans, c'est beaucoup la trois quarts, sont des gens de la gauche et de l'extrême gauche qui n'ont rien à faire avec la religion. Grâce à Dieu que le tribunal administratif a fini par corriger l'erreur du gouvernement et de M. Darmanin et a permis la manifestation. Et vous avez vu dimanche dernier, il y a eu 15 à 20 000 manifestants et aucun incident. Prétendre que soutenir la Palestine, c'est une action islamiste contre les Juifs en France, c'est de la propagande israélienne pour censurer la solidarité avec la Palestine. Mais les amis de la Palestine sont nombreux, ils ont su se défendre et finalement la République française a la possibilité de faire régner le droit puisque le tribunal administratif leur a permis. J'espère qu'on continuera à trouver moyen en défendant le droit. On n'a pas besoin de défendre aucune religion, ni aucune ethnie, ni même aucun nationalisme chauvin. Il faut défendre la liberté des peuples et l'égalité des droits de tous, Israéliens et Palestiniens. Et n'oubliez pas que nous avons beaucoup, beaucoup d'amis en Israël. On a même des amis dans l'armée israélienne, dans Breaking the Silence, qui est un des mouvements les plus courageux, puisque ce sont des soldats, des ex-soldats, qui militent pour un État palestinien. Plus, bien sûr, tous les mouvements de solidarité avec les Palestiniens dans les mouvements de gauche et plusieurs personnalités israéliennes. Donc, il faut à tout prix un minimum de coordination de tous ces mouvements-là. Moi, je suis une vieille dame de 74 ans. Je me rappelle lorsque nous avions des structures à Genève, aux Nations Unies et à New York pour coordonner tous les mouvements de solidarité, pas coordonner quotidiennement parce que l'ARZAC, c'est différent de New York, c'est différent de Beyrouth ou d'Alger. Mais il faut un minimum, disons, une conférence par an, une conférence par tous les 10 mois pour que ce mouvement devienne un mouvement encore plus fort que celui des États qui ne voient que leur intérêt financier, pétrolier, sécuritaire. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire Abraham? C'est vraiment pour défendre le droit de la paix des Israéliens et des pays du Golfe. C'est parce qu'on fait des accords sur le pétrole avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, parce qu'on fait des affaires avec le Maroc et les sociétés africaines. Et donc, c'est de la supercherie, Abraham. Et en tout cas, il est mort et enterré aujourd'hui. Mais par contre, le droit à l'égalité et la coexistence est un droit universel et il concerne autant nos amis installés au Larzac que ceux qui sont installés à Marseille, que ceux qui sont installés à Beyrouth ou à Gaza.
Merci beaucoup, Laïla. On finit sur
cet optimisme
et ce soutien.
De la volonté, de la volonté.
Voilà. Merci encore pour cette émission.
Merci à tous les amis du Larzac, merci à la radio de me donner l'occasion. J'ai l'impression que c'est comme si j'étais assise avec vous et qu'on a fait un long échange de 3 semaines absolument dramatiques pour tout le monde, inclus d'ailleurs les Israéliens qui sont paniqués. Et j'espère qu'on va éviter ce que les Américains essayent de faire, ça veut dire d'entraîner cette région dans une nouvelle guerre régionale.
Nous aussi,
on va essayer.
Merci.
Merci Laïla.
Merci beaucoup Laïla.
Bonjour à tous les amis qui écoutent.
Ah oui,
au revoir. Au revoir le Larzac.
Au revoir.
Its concert in Ramallah in 2005 showed the world that the orchestra would not let itself be held back by political boundaries.
It is our belief that the destinies of these two people, of the Palestinian people and the Israeli people, are inextricably linked, and that it is our duty, all of us, to find a way to live together, because either we all kill each other or we learn to share what there is to share. It is with this message that we have come to you today.
جميل وسقيني يا عين حبيت جميل يا ريتني ظل وحبيت جميل يا ريتني ظل وحبيت جميل يا ريتني ظل ويا عيني حازل جمال والحسن ده كله
ما بنام